d'échecs et de réussites, de bonheur et de malheur, il nous convient de réfléchir, de méditer comme il faut pour pouvoir affronter ces échecs et ces réussites d'une façon adéquate pour pouvoir bien les aborder. Alors, on avait expliqué que, a priori, c'est quelque chose de normal qu'une personne ait des montées et des descentes. Mais cependant, on avait expliqué qu'il convient d'utiliser de plusieurs éléments pour pouvoir éviter les chutes et les échecs dans la vie. On avait expliqué d'une part que lorsque on prend du plaisir à ce qu'on fait, lorsqu'on trouve quelque chose de nouveau dans ce qu'on réalise, ça peut nous éviter certaines chutes, certains échecs. D'autre part, on avait aussi expliqué que, en général, on doit utiliser notre esprit. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, dès qu'on a une grande décision à prendre, on doit aller chercher au fin fond de notre esprit pour pouvoir prendre une décision qui va être la meilleure. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, de quelle façon utiliser notre esprit de la façon la plus positive possible. Alors auparavant, on va faire une parenthèse. En effet, en général, nous avons l'habitude de prendre des décisions tous les jours. On prend des centaines de décisions tous les jours. Droite, gauche, oui, non, noir, blanc. C'est ce qui s'appelle Kohar Bechira. Hachem nous a donné une faculté de décider, de prendre des décisions. Ça s'appelle le libre arbitre. Hachem a donné à chacun d'entre nous cette faculté de pouvoir prendre une décision. Mais cependant, on va expliquer que malheureusement, on utilise bien rarement cette faculté. Rabbi Yonah explique, nous dit que la Bechira, c'est une faculté extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est même une mitzvah qu'Hachem nous a confiée. Mais cependant, il faut savoir l'utiliser de façon positive et Bechla l'utiliser. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des centaines de décisions tous les jours, alors en général, on fait rarement appel à ce qui s'appelle ce Kohar HaBechira, cette faculté qui s'appelle le libre arbitre. Par exemple, on va expliquer. Imaginez que quelqu'un a envie de prendre un gâteau, a envie d'acheter un gâteau, mais cependant la pâtisserie la plus proche se trouve à 5-6 km à la ronde. Alors bon, il hésite. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pas il fait chaud, ou alors il fait froid. Il n'a pas envie de sortir, de faire 5 km à pied. Donc, alors un tel va décider de faire 5 km à pied dans le froid ou dans la chaleur pour acheter son gâteau. L'autre va décider de rester à la maison et de renoncer à ce gâteau. Alors si on va considérer qu'un tel a choisi d'acheter ce gâteau, malgré l'effort que ça demande, et l'autre a choisi de rester à la maison, dans les deux cas, c'est faux. C'est-à-dire, dans ces deux cas-là, personne des deux n'a utilisé cette faculté qui s'appelle le libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'en effet, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce qu'on appelle deux midot, deux qualités, plutôt deux défauts, deux vices, qu'on va appeler la gourmandise et la paresse, qui sont en train de se rencontrer, qui sont en jonction, qui sont en friction. Et la question de savoir quelle est la caractéristique, quel est le défaut qui va l'emporter, quelle est la mida qui va l'emporter sur l'autre. Chez un tel, c'est la gourmandise, chez l'autre, c'est la paresse. Mais dans les deux cas, personne n'a utilisé ce qui s'appelle le Kohar Bechira, le libre arbitre. On n'a pas fait un choix, on n'a pas utilisé notre esprit, notre logique, notre méditation pour prendre telle ou telle décision. Prenez un autre exemple. Quelqu'un hésite le matin à se lever de son lit. Il est réveillé et il hésite. Est-ce que je me lève ou je ne me lève pas? Alors, un tel décide de se lever. L'autre, il se lève bien plus tard. Alors là aussi, n'est-ce pas, il est très possible que dans les deux cas, personne d'eux n'a choisi de se lever ou de rester dans son lit. Mais un tel, n'est-ce pas, a été pris. pris par la paresse, par la fainéance, par, n'est-ce pas, le côté agréable de rester dans son lit. Et l'autre, n'est-ce pas, s'est levé rapidement parce qu'il n'a pas envie d'être mal vu par son patron, par ses camarades, etc. 36 raisons qui l'ont éventuellement motivé à se lever rapidement du lit. Alors, dans quel cas, réellement, on va considérer qu'on a, oui, utilisé, qu'on a, oui, exploité ce Kohar Bechira, cette faculté de choisir ce libre arbitre que Hachem nous a donné. Alors, pour revenir dans le cas précédent. Lorsque quelqu'un hésite à faire 5 km à pied pour acheter un gâteau ou rester chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient tout d'abord de se détacher totalement de la situation dans laquelle où on se trouve. Comme, pas par exemple, si on peut s'imaginer, comme si je m'élève avec un hélicoptère, en train de regarder, de constater, de me constater, n'est-ce pas, de très haut pour voir comment est-ce que je vais agir et réagir dans telle situation. Deuxième étape, il faut essayer d'analyser, de décortiquer les différentes forces qui sont en train d'agir dans ma personnalité, c'est-à-dire prendre conscience des différentes frictions que j'ai en moi, jusqu'à que je me rende compte que réellement, il y a, oui, un côté de gourmandise qui agit en moi, il y a un côté de paresse qui est là, n'est-ce pas, à l'encontre de la gourmandise. Et connaître aussi, apprendre à connaître l'importance, la puissance de chacune de ces forces à prendre en considération. Et ensuite, en fonction de tout ce qui se passe dans ma personnalité, prendre une décision qui va être rattachée uniquement à mon esprit humain. C'est-à-dire faire un effort pour pouvoir se détacher de tout intérêt personnel. Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, une négia ishit. Un intérêt personnel. Se détacher pour pouvoir prendre une décision qui va être tout à fait objective, qui va être, n'est-ce pas, tout à fait droite et juste selon une décision personnelle qui vient directement de mon esprit. Et cette réflexion, n'est-ce pas, aura été aussi érigée, dirigée par des principes de base, principes de morale, spirituelle, intellectuelle, qu'on aura auparavant établi, pas, grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'étude des valeurs morales et spirituelles. Alors, on va faire ici une parenthèse. C'est que on peut éventuellement s'élever moralement, intellectuellement, spirituellement, et donc déjà transmettre la décision non pas aux forces, disons à nos défauts, à nos problèmes, n'est-ce pas, qui sont comme la gourmandise et la paresse, mais s'élever, n'est-ce pas, à un niveau plus élevé, et donc faire abstraction totale de la paresse et de la gourmandise, et décider uniquement selon des critères qui vont être absolument spirituels, plus élevés, plus nobles, plus importants. Et dans ce cas-là, c'est sûr et certain qu'une fois qu'on aura fait ça, eh bien on aura utilisé ce Kohar Bechira qui s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que si j'arrive pas réellement à neutraliser la gourmandise, à neutraliser la paresse, et là, pas, je me situe dans un système, donc que je dis que parce que je suis fatigué, parce que donc j'ai besoin de manger, parce que sinon je ne pourrais pas être en forme, je n'aurais pas les idées claires, je ne pourrais pas bien faire la tefila, etc. Et d'un autre côté, je ne vais pas sortir dehors parce que je risque de prendre froid, etc. Donc c'est déjà une décision d'un autre domaine, d'un système plus élevé. Dans ce cas-là, c'est sûr et certain qu'on aura utilisé ce qui s'appelle le Kohar Bechira, qui est libre arbitre. Mais même en restant dans un niveau plus bas, comme on l'a cité auparavant, eh bien on pourra aussi considérer qu'on peut aussi utiliser le Kohar Bechira. C'est-à-dire que même dans le cas où je sais pertinemment que ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement la gourmandise, c'est pas une question d'être en bonne santé, n'est-ce pas? Parce que je manque de rien, je suis en forme, je suis en bonne santé, je ne vais pas acheter mon gâteau pour être en bonne santé. C'est uniquement gourmandise, point final. Et je sais aussi, n'est-ce pas, que si j'y vais ou j'y vais pas, c'est uniquement une question de paresse, pas une question de santé, de prendre froid, etc. Même dans ce cas-là, on peut éventuellement transmettre cette décision au Kohar Bechira, n'est-ce pas, à notre libre arbitre, à condition de ne pas se jeter, de ne pas se précipiter sur telle ou telle décision sans réfléchir. Mais de nouveau prendre du recul, analyser la situation, être conscient des forces, pas même si ce sont des traits de caractère qu'on considère comme des vices, comme des défauts, mais lorsque je prends conscience de ce qui se passe dans la personnalité, et j'agis et je réagis en fonction de cela. Là aussi, j'aurais utilisé le Kohabriga. On va essayer de concrétiser cela en prenant un exemple précis. C'est-à-dire que des fois, je peux me rendre compte que si je suis démoralisé, je suis découragé, ou alors on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Et des fois, on a besoin, de se permettre de s'accorder une certaine gourmandise pour pouvoir être en forme, pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de sa mélancolie. Bon, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours conseillé de le faire, parce que des fois on peut sombrer encore plus dans nos défauts, nos vies et nos vices, mais des fois ça peut être la bonne décision à prendre. Il faut juste, n'est-ce pas, être prudent et être surveillant, surveiller sa conduite pour ne pas sombrer trop dans nos vices et nos défauts. Mais dans certains cas, comme dit, on peut oui se permettre telle ou telle gourmandise ou telle, n'est-ce pas, gâterie pour pouvoir sortir de telle mélancolie. Et dans ce cas précis, ça va être encore une fois une décision réfléchie et méditée qui provient du Koach HaBechira, qui est le libre arbitre. Même si, je répète, même si je l'ai fait, je l'ai réalisé parce que j'avais tel vice ou tel défaut, à partir du moment où j'ai bien analysé la situation et j'étais très conscient des forces qui agissaient en moi et je réfléchis, est-ce que je me l'accorde ou je ne me l'accorde pas? Est-ce que je m'accorde, n'est-ce pas, telle gâterie ou je ne me l'accorde pas? Et je décide, n'est-ce pas, de façon plus ou moins logique et rationnelle, que selon la situation dans laquelle je me trouve, eh bien, c'est nécessaire pour pouvoir être en forme, pour pouvoir être de bonne humeur, pour pouvoir mieux faire ma tfila, ma Torah, ma mitzvah, je vais m'accorder cette gourmandise, cette gâterie. Eh bien, dans ce cas-là aussi, on aura utilisé le Koach HaBechira qui s'appelle libre arbitre. Donc, en résumé, ça dépend de la façon dont tu réfléchis. Il ne faut pas se précipiter sur la décision sans réfléchir, mais prendre du recul, analyser la situation, se rendre compte de quelles sont les forces qui te poussent à faire ceci ou cela, quelles sont les forces qui te poussent à dire oui ou non, droite, gauche, noir, blanc, et ensuite tu transmets la décision à ton esprit qui va, n'est-ce pas, réfléchir, méditer, qu'est-ce qu'il faut réellement dans ton cas précis, qu'est-ce que tu dois décider. Dans ce cas-là, on aura fait agir le Koach HaBechira. Entre parenthèses, même dans certains cas où, disons, on s'est rendu compte a posteriori qu'on a pris la mauvaise décision. Pas des fois ça arrive, on réfléchit pendant longtemps, même pendant des heures et des mois, on a pris une décision. Eh bien, des fois, on est content d'une décision, des fois, on est mécontent. On s'est rendu compte a posteriori que la décision n'était pas la bonne. Même dans ces cas-là, il est très possible qu'auparavant, eh bien, on avait utilisé le Koach HaBechira, cette faculté qui s'appelle le libre arbitre. Parce qu'en effet, comme dit, ça dépend uniquement de ta réflexion, ta méditation. Si ton esprit a opté pour telle ou telle décision, parce qu'il est très possible que ton esprit, ta décision, elle était très objective, elle était droite et juste selon les données que tu avais auparavant. Mais en fin de compte, il s'est avéré qu'il y avait certains détails qui t'ont échappé, ou alors certains détails que tu as analysés, mais tu n'as pas réussi à les analyser, pas à 100% selon toutes les circonstances, toutes les dimensions que ça comportait. Et donc, en fin de compte, tu as regretté. Même dans ce cas-là, il est très possible qu'on a transmis au départ cette décision à notre esprit, à ce Koach HaBechira. Parce qu'il faut surtout éviter, c'est ne pas prendre des décisions à la va-vite. Ça te passe, c'est le Koach HaBechira, n'est-ce pas, vu sous un certain angle, dans une certaine dimension. Maintenant, on a encore une autre grande partie dans ce domaine-là. Et pour cela, on va faire une parenthèse, on va se référer à ce qu'on a étudié il y a quelques semaines par rapport à Yaakov et Esav. Alors, c'est intéressant, c'est curieux de constater comment est-ce que la Torah nous définit un tzaddik comme Yaakov et un rachat comme Esav. dans Parashat Toldot. Alors nous, si on voudrait définir un tzadik et un racha, qu'est-ce qu'on dirait? Bah, eh ben, celui-là, c'est un tzadik, il fait la Torah, il fait les mitzvot, il les fait bien. Celui-là, c'est un racha, il fait rien du tout, il fait des averot. Alors on voit que la Torah nous définit Yaakov et Esav de façon différente. Qu'est-ce que la Torah dit? La Torah nous dit, Vaï, Esav, Ish, Yodat, Saïd, Ish, Sade, Yaakov, Ish, Tam, Yoshev, Ohalim. Qu'est-ce que ça veut dire? Esav était un homme des champs, Ish, Sade. Un homme qui vit dans les champs. Yaakov, Ish, Tam, un homme simple, Yoshev, Ohalim, qui était assis, installé dans les tentes. Alors lorsque la Torah nous donne une définition de Yaakov et Esav, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, la Torah ne vient pas relater de ce qu'il faisait tous les jours, c'est vrai que c'est important, mais il s'agit plutôt d'une définition de l'essence de leur personnalité. C'est-à-dire que Yaakov, Ish, Tam, Yoshev, Ohalim. Yoshev, Ohalim, un homme qui vit dans les tentes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est son essence, c'est ce qui va définir sa réelle personnalité. Il vit dans la tente, non seulement lorsqu'il est dans la tente en train d'étudier la Torah et de prier, mais il est aussi dans la tente, même lorsqu'il sort dehors, même lorsqu'il est dans un marché, même lorsqu'il va côtoyer des centaines ou des milliers de personnes. En effet, Yaakov est un homme qui, grâce à l'étude de la Torah, grâce à la tfila, grâce aux mitzvot, il va puiser des principes de base sur lesquels, n'est-ce pas, il va baser, il va bâtir, il va édifier sa personnalité, sa vie, sa conduite quotidienne. En effet, la Torah, les mitzvot, la tfila doivent nous donner un certain équilibre, une certaine structure spirituelle qui va nous diriger, qui va nous encadrer, qui va nous structurer. À tel point où lorsqu'on va sortir dehors, lorsqu'on va aborder les problèmes de la vie, lorsqu'on va côtoyer les amis, la famille, la société, lorsqu'on va aller au travail, lorsqu'on va passer un coup de fil, envoyer un fax, eh bien, dans tous ces domaines-là, c'est la Torah qui nous a bâti, qui nous a construit, qui nous a structuré, qui va nous diriger, qui va nous donner la meilleure façon idéale de se conduire dans n'importe quel domaine, n'importe quelle dimension. Ce que dit la Torah, Yaakov Yoshev Ohalim, il est dans la tente, non pas seulement quand il est dans la tente, mais il est dans la tente même lorsqu'il est dehors, même lorsqu'il côtoie la société, même lorsqu'il est en train, n'est-ce pas, de procéder à un achat ou une vente. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas un homme qui n'a aucune barrière, aucune limite, comme la Torah nous définit Esav. Esav, c'est quoi? Ish Sade. Un champ, ça n'a pas de limite, ça n'a pas de barrière, n'est-ce pas? C'est pas très bien défini. Pas, c'est Esav. Esav, quand il sort dehors, qu'est-ce qu'il fait? À quoi il pense? À quoi il pense? Il pense à ce qu'il voit, à ce qu'il entend. Pas, très souvent, on peut se rendre compte que, pas, c'est la suite avec ce qu'on a dit précédemment, c'est que si on ne se maîtrise pas, si on ne transmet pas la conduite de notre vie à notre esprit, eh bien, on se conduit comme Esav. On sort dans la rue, on prend le bus, on prend le train, on va au travail. Eh bien, à quoi on pense constamment? À ce qu'on voit, à ce qu'on entend. Pas je vois quelqu'un, je lui parle ou je ne lui parle pas, je pense à lui. Je vois une image, une photo, une publicité, un slogan, alors j'y pense. J'entends une musique à la radio, eh bien je pense à cette chanson. Et ensuite, n'est-ce pas, les pensées, elles vont vagabonder au gré du vent. Elles vont, n'est-ce pas, elles vont flotter, vagabonder selon ce que je vais voir ou entendre, ou alors selon, n'est-ce pas, le rapport de telle ou telle image, de telle chanson avec, disons, mes pensées conscientes et inconscientes personnelles.
C'est-à-dire que quelqu'un, il peut être dans le Beth Amidrash et étudie beaucoup, mais dès qu'il sort et qu'il n'a pas l'intention d'appliquer ou alors de diriger sa vie par rapport à son étude, alors ça veut dire qu'il est méchant que ça, c'est le même caractère.
On va expliquer ça tout de suite. On finit d'abord pour bien définir ça. C'est-à-dire que si on se conduit de telle façon, c'est-à-dire qu'on n'a aucune limite, aucune barrière. Aucune barrière. Et pas dès qu'on est dehors, eh bien, on est à la portée de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va entendre, eh bien, on ressemble à Esav qui est Ishsadé, un homme des champs qui n'a aucune barrière, aucune limite, c'est-à-dire qu'il n'a aucune structure spirituelle, aucune, n'est-ce pas, aucune limite morale. Eh bien, automatiquement, on ressemble à Esav et c'est bien dommage. Et comme, n'est-ce pas, l'a dit Daniel, en effet, c'est-à-dire que on peut même, n'est-ce pas, être au Beit HaMidrash et étudier, mais dès qu'on sort dehors, on ressemble à Esav. Pourquoi ? Parce qu'en effet, si on ne réussit pas à puiser dans la Torah des principes, pas de base, qui vont nous diriger, qui vont nous structurer, qui vont nous limiter, qui vont élever notre conception, notre pensée, notre réflexion, selon les concepts spirituels de la Torah, eh bien, on ressemble plus à Esav. Pour ressembler à Yaakov, qu'est-ce qu'on doit être ? Yoshev Walim. C'est-à-dire, comme on l'a dit auparavant, c'est qu'on doit réussir, n'est-ce pas, à puiser à partir de la Torah, de la Tfila, des mitzvot. Et entre parenthèses, on peut le faire, n'est-ce pas, à partir de chaque mitzvah, à partir de chaque mot de la Torah, à partir de chaque phrase de la Tfila, à partir de chaque bracha. Quand on récite une bracha, chez Akol Niabidvaro, même sur un simple verre d'eau, eh bien, on peut puiser à partir de là, eh bien, un principe de base qui va diriger notre vie. Alors, puisqu'on a cité cet exemple, on va expliquer concrètement comment réaliser cela. Eh bien, c'est bien simple. C'est quoi une bracha ? Je prends un verre d'eau, pas un verre d'eau qui est en effet la boisson la plus simple qu'il y a au monde. Eh bien, ce verre d'eau, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaro. C'est-à-dire que je m'adresse à Hashem. Je rencontre Hashem. Même un verre d'eau, il me rappelle de rencontrer Hashem. Ça me donne, n'est-ce pas, une prise de conscience. Attention, le monde n'est pas efker. Le monde, n'est-ce pas, c'est pas un monde sauvage. Tu n'es pas ici dans la jungle. Quand tu prends un verre d'eau, eh bien, c'est Hashem qui a créé cette eau. Hashem qui t'a permis de boire ce verre d'eau. Et tu remercies Hashem. Tu proclames que c'est Hashem qui l'a créé. Tu proclames qu'Hachem a créé le monde entier et tu demandes à Hachem la permission de boire ce verre d'eau et tu le remercies de t'avoir désaltéré. Ça, c'est lorsqu'on prend un verre d'eau et donc automatiquement, lorsque je sors dehors, eh bien, je me rappelle de ce verre d'eau ainsi que de la centaine de brachot qu'on fait tous les jours ainsi que des centaines de phrases qu'on récite dans la tefila entre parenthèses. Il faut se rappeler que dans les tefilot qu'on a tous les jours, les trois tefilot, Shachrit, Mincha et Arvit, on cite le nom d'Hachem plus de 1800 fois, imaginez-vous. Plus de 1800 fois, on parle à Hachem. Pas imaginez quelqu'un qui rencontre Hachem 1800 fois par jour. Eh bien, automatiquement, sa vie, elle est transformée, métamorphosée. C'est-à-dire qu'à partir de la tefila, à partir de la bracha, même sur un simple verre d'eau, à partir de la Torah, n'est-ce pas, quand tu étudies une halakha, une Gemara, une Mishnah, un Moussa, un Chumash, eh bien, n'importe quelle phrase, n'importe quel mot de la Torah, elle va te bâtir, elle va te construire, elle va te structurer. Et quand tu sors dehors, Chol Sheken, encore plus quand tu es au Beit HaMidrash, n'est-ce pas, mais même quand tu sors dehors, même quand tu vas te côtoyer des centaines de personnes, tu te rappelles consciemment et inconsciemment que, attention, il y a un maître au monde, quelqu'un qui dirige le monde. Et donc, automatiquement, ça me pousse à diriger mes actions, mes paroles, mes pensées, non pas selon ce que je vais voir, entendre à droite, à gauche, qui n'a aucun rapport avec ma personnalité réelle, personnelle, mais au contraire, je vais diriger ma pensée, ma parole, mes actions, selon les principes spirituels de base que j'ai puisés à partir de la Torah, de la tefila et des mitzvot. On va citer encore quelques exemples. C'est de nos jours, les médias travaillent essentiellement pas selon ces principes-là et dans cette optique. C'est-à-dire que, en effet, c'est bien connu qu'il y a des psychologues très compétents qui sont en train de mettre au point des publicités les meilleures pour pouvoir agir sur ton esprit, sur ton conscient, sur ton subconscient, pour que, n'est-ce pas, lorsque tu vas voir telle ou telle image, telle couleur, avec telle musique, etc., eh bien, ça va te faire plus ou moins un lavage de cerveau lorsque tu ne la revues pas 3, 4 fois, 10 fois, 20 fois, à la télé, ou alors dans le journal, ou à la radio, etc., ou dans les photos qui sont à l'extérieur, à tel point que lorsque tu seras dans un magasin, eh bien, entre plusieurs produits, bien que n'y a pas grande différence, pas ni dans le prix, ni dans la qualité, eh bien, tu ne pourras pas diriger ta main vers tel ou tel produit. Et là encore. Si on se laisse aller à tous les slogans, à toutes les publicités des médias, eh bien, on se rapproche de Esav, on ressemble à Esav. Un homme qui se conduit comme Yaakov. Alors, tout d'abord, n'est-ce pas, il évite autant que possible d'être, n'est-ce pas, de voir, d'entendre des publicités, parce qu'en effet, c'est un lavage de cerveau qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas objectif. Parce qu'en effet, n'est-ce pas, on essaie de te baratiner, de te faire un lavage de cerveau, non pas selon des critères qui sont vraiment convaincants, qui sont persuadants du point de vue intellectuel, mais c'est plutôt on essaie pas de te convaincre inconsciemment. Maintenant, même dans le cas où on a déjà subi l'influence de telle publicité, eh bien, avant de choisir pas tel ou tel produit, là aussi, il faut transmettre la décision à notre esprit. C'est-à-dire que, d'abord, se rendre compte, analyser la situation. Bon, ce n'est pas toujours évident qu'on peut toujours faire cette analyse-là lorsqu'on est dans un magasin pour choisir entre deux produits. Mais juste pour expliquer comment est-ce qu'on agit et comment réagir dans le cas où c'est possible. C'est-à-dire que se rendre compte des forces qui agissent en toi, tu peux éventuellement ne pas te rappeler que tu as vu avant-hier telle publicité par rapport à tel produit. Et ensuite, tu réfléchis. Bon, n'est-ce pas, ils m'ont dit ça, j'ai vu ça. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est vrai? Alors, je vérifie n'est pas le produit, je vérifie la composition, le prix, etc. Et ensuite, je prends une décision qui va être personnelle, qui va provenir de mon esprit, qui va dépendre d'une analyse qui sera plus ou moins objective. Bon, c'est pas toujours évident, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se débarrasser de cette influence, n'est-ce pas, qu'on a subie inconsciemment pour se séparer de Esav et plutôt se rapprocher de la conduite de Yaakov, qui est une maîtrise de l'esprit. Alors, entre parenthèses, c'est aussi bien de faire pour cela des exercices. C'est-à-dire que, prenons un exemple qui est simple et courant. Dans ce même ordre d'idée, si on va par exemple dans un mariage, ou alors une bar mitzvah, bon, ou des fiançailles, etc., un endroit dans lequel on rencontre beaucoup de monde, beaucoup de gens. Alors là aussi, on peut se rendre compte que petit à petit, eh bien, on perd plus ou moins cette faculté du Kouacha Bechila du libre-arbitre et on perd petit à petit cette maîtrise de notre esprit comme le possède Yaakov et on se rapproche plutôt de la conduite de Esav. C'est-à-dire, je m'explique. C'est qu'on peut arriver à une salle de mariage en étant très frais, très dispo, très réfléchi, en train de méditer, parler de façon posée. Top. Mais après une demi-heure, une heure, deux heures, une fois qu'on a déjà vu et parlé à des dizaines, des centaines de personnes, une fois pas qu'on a, qu'il y a déjà un orchestre qui nous a un peu aussi, n'est-ce pas, un peu assourdi pendant, n'est-ce pas, quelques heures, alors automatiquement, c'est comme si on perd ses esprits, c'est comme si on nous a sorti de notre personnalité réelle. Et on peut se rendre compte que vers la fin de la soirée, on agit, on réagit de façon différente qu'au début de la soirée. Si au début de la soirée, on était très dispo, très réfléchi, on réfléchissait avant de parler, on parlait de façon posée, mais vers la fin de la soirée, c'est le contraire, eh bien, on réagit de façon spontanée, on répond, comme on dit, du tac au tac, des fois on réagit mal, on réagit violemment, et des fois, bon, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que là aussi, on a subi cette influence de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu. C'est à cela dit la Torah, encore une ma'ala pour Yaakov, Vaivater, Yaakov, Levado. Yaakov, n'est-ce pas, est resté seul juste avant le combat avec le ministre de Esav. Alors, Vaivater Yaakov Levado, et du Midrash, il y a aussi une comparaison, un parallèle étroit entre Yaakov et Hachem. comme c'est écrit, n'est-ce pas, Vinisgav Hashem Levado. D'ailleurs, il y a aussi un chant de nos jours en Israël. Vinisgav Hashem Levado, c'est-à-dire que Yaakov avait cette faculté qui ressemblait à Hashem d'être seul. Comme on comprend bien, n'est-ce pas, Vinisgav Hashem Levado, que Hashem, il agit de façon, n'est-ce pas, de façon seule, personnelle. Hashem n'est pas influencé par quelconque circonstance ou quelconque événement, mais il agit, n'est-ce pas, de façon dont il lui semble pas la meilleure à agir. Pas aussi Yaakov, même lorsqu'il était en face d'une foule immense, même lorsqu'il est en train d'entamer un combat avec le ministre, n'est-ce pas, le prince spirituel de Esav, même lorsqu'il va rencontrer Esav et toute son armée, même lorsqu'il est avec Lavan pendant 20 ans, lorsque Lavan le ruse une centaine de fois, dans tous les cas, Yaakov les vado, c'est-à-dire que Yaakov, il ne perd pas ses esprits. Il réfléchit toujours de façon objective. Prend la décision, non pas, pas selon ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, mais selon les principes de base de la Torah. Pas s'il doit être, si la Torah recommande d'être honnête avec Lavan, même si Lavan le trompe, eh bien il est honnête. Si la Torah, n'est-ce pas, lui recommande de se sauver de chez Lavan, il se sauve. Sa conduite, n'est-ce pas, c'est une conduite qui, Yoshev Oalim, il a puisé selon les principes de base qu'il a tirés de la Torah, Yaakov Vaivater, Yaakov Levado. Eh bien, pareil, nous aussi, c'est, on a la possibilité, on a cette faculté. Là aussi, ça dépend, est-ce que notre conduite, est-ce qu'on arrive à une certaine maîtrise de notre personnalité, une maîtrise de soi jusqu'à quel point de diriger nos actions, nos paroles, nos pensées, selon les principes spirituels de la Torah et non pas, n'est-ce pas, selon ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu par hasard. Et dans ce cas-là, on peut même lorsqu'on va côtoyer des centaines de personnes, même lorsqu'on est devant une foule de personnes, eh bien, on n'est pas, n'est-ce pas, on n'est pas ébranlé, on ne va pas être impressionné par la foule qui est en face de nous. On ne va pas être dérangé, perturbé par ce qu'on est en train de voir et d'entendre, mais on va prendre une décision qui est tout à fait objective, droite et juste. Pas comme on racontait sur le Rav Char, que c'était remarquable de constater que pour lui, transmettre un cours de Torah devant 1000 personnes ou devant 3 personnes, c'était exactement pareil. C'était le même cours de Torah. Pas un homme normal, pas quand il parle devant 3 personnes, 1000 personnes, c'est différent. Pas. Enfin, chacun est, je dirais, est influencé de telle ou telle façon, telle ou telle manière. Chacun va réagir pas autrement. L'un, il aura le trac, il sera même paralysé. L'autre, il va prendre, n'est-ce pas, un ton qui est hautain et vaniteux devant 1000 personnes. Devant 3, il va le mépriser. Il voudra à peine il voudra prendre la parole. Il dira, s'il y a 3 personnes qui vont l'écouter, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une foule pas immense, etc. Chacun va réagir de façon différente. Alors que quelqu'un qui est fidèle au principe de la Torah et qui est conscient qu'il est en train de transmettre les paroles de la Torah. Et la Torah, elle ne change pas. C'est la même Torah que tu transmets devant une personne ou devant 1000 personnes, c'est la même Torah. Par aussi, il a été raconté sur le Rosh Yeshiva Tzlabotka, lorsque la Yeshiva qui était en Chutz Laaretz a déménagé en Israël. Alors c'est une yeshiva qui comptait plus de 300 élèves. Et lorsqu'ils ont déménagé en Israël à Bnei Brak, eh bien, la yeshiva avait commencé avec 4 élèves. 4 élèves. Et un de ces élèves raconte que le maître, le Rosh Yeshiva, lorsqu'ils ont fêté l'inauguration de la yeshiva avec 4 élèves, eh bien, il a pris la parole, pas. Alors il est monté sur la bima, sur l'estrade, en face du Rana Kodesh. Et cet élève raconte, pas lui qui était aussi présent parmi les 300 élèves, il raconte que son maître, eh bien, s'est conduit exactement de la même façon, devant 300 personnes, comme devant 4 élèves. Pas, il n'a pas été dérangé que sa yeshiva, puisqu'on est emménagé, alors il fallait attendre du temps que les élèves arrivent. Pas, c'est-à-dire que les élèves étaient restés là-bas. Il fallait que de nouveaux élèves arrivent. Pas, il n'a pas été brisé ou démoralisé ou dérangé par lui qui avait l'habitude de parler pendant des années, des dizaines d'années, devant plus de 300 personnes. Devant 4 élèves, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que je transmets la Torah. Ce qui m'importe, n'est-ce pas, c'est pas ce qui est en face de moi, mais c'est ce que je transmets, qui a 4 élèves, ou alors 300, c'est pareil. Entre parenthèses, on peut aussi se rendre compte par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui était d'une envergure spirituelle qui est inimaginable. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu sa grandeur, a dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu as donné la Torah à ton peuple par moi? Il fallait donner la Torah par Rabbi Akiva. Telle était sa grandeur en Torah. Alors Rabbi Akiva, qui a enseigné la Torah à 24 000 élèves, il avait une yeshiva de 24 000 étudiants. Et bien malheureusement, c'est tout ce que ces 24 000 étudiants, et bien ils sont morts en l'espace, pas d'un peu plus d'un mois. Et leur Torah, n'est-ce pas, a été coupée, arrêtée. Et Rabbi Akiva ne s'est pas découragé. Imaginez, n'est-ce pas, un homme avec une yeshiva de 24 000 élèves et tous meurent en l'espace de quelques semaines. Un homme normal serait brisé, démoralisé, n'est-ce pas, c'est terminé, sa carrière a pris fin, il a raté sa vie. Ce qui aurait pu concerner. Rabbi Akiva ne s'est pas découragé. Il est allé encore chercher d'autres élèves. Il a trouvé 5 élèves, pas Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, Shemar Yochai. Et il a de nouveau recommencé à enseigner, la Torah. Et il faut se rendre compte que toute la Torah que nous avons aujourd'hui, elle provient de ces 5 élèves. C'est-à-dire qu'en effet, par Rabbi Akiva, il a transmis la Torah à 24 000 élèves, ça n'a rien donné. Il a transmis la Torah à 5 élèves, ça a tout donné. Tout le monde de la Torah provient de cela. Pour nous dire, en effet, il ne faut pas être impressionné par les grandes foules, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir 24 000, ça ne donne rien. Tu peux avoir 5 élèves, ça donne toute la Torah. Pas pour résumer, bon, qu'est-ce qu'on avait dit, c'est que pour, encore ça, c'est pour éviter les descentes, les chutes, les mélancolies, le découragement et le désespoir, eh bien, même quand on n'a pas toujours la motivation, il faut transmettre la décision à notre esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller, pas au gré du vent, aux humeurs qui montent et qui descendent, mais il faut analyser la situation dans laquelle on se trouve, prendre du recul, vérifier quelles sont les différentes forces qui agissent en nous et essayer de maîtriser ces forces de la façon la plus intense possible et de prendre une décision qui va être rationnelle et objective. De cette façon-là, on peut éviter les chutes le maximum possible.